Nous entendons cette parole, aimez vos ennemis. Et quand on entend cette parole, on a généralement plutôt une autre réaction, et dire, ben, mes ennemis, justement, non, je ne les aime pas du tout. Je n'ai aucune envie de les aimer. Le type qui me jalouse au bureau et qui intrigue pour essayer de récupérer ma place, je n'ai aucune envie de l'aimer. Celui qui, dans la cour de récréation, se moque de moi et entraîne d'autres à se moquer de moi, je n'ai aucune envie de l'aimer. Celui qui, lors de l'héritage familial, a posé des problèmes à tout le monde par son appât du gain, je n'ai aucune envie de l'aimer. Et bien là, c'est ça que je constate. Alors, aimez vos ennemis. Non, pas du tout. Alors, en même temps, cette parole reconnaît une chose, c'est que des ennemis, nous pouvons en avoir. Tiens, ça nous fait sortir d'une idée où tout le monde est vraiment tellement gentil. Non, il y a des gens qui nous veulent du mal. Il y a des gens qui, parfois, s'ingénient à nous causer des problèmes. On sort aussi d'une illusion de dire « Oh, ben, c'était pas très grave ». Ces choses, ah oui, non, c'était pas gentil, c'était méchant même, c'était pas très grave. Non, il y a des fois, c'est vraiment grave. La parole de Jésus, aimez vos ennemis, reconnaît que des ennemis, nous pouvons en avoir. La parole de Jésus, elle nous amène à voir une chose, c'est qu'elle nous invite à ne pas répondre au mal par le mal. Elle nous invite à ne pas répondre au mal par le mal. Alors que généralement, c'est un peu ce qui nous vient instinctivement. Et quelqu'un me bouscule, je dis, ben, je te bouscule en retour, tu vas voir ce que ça fait. Et dans cette attitude, ce n'est pas directement le mal qui est voulu, c'est plus que l'autre comprenne le dommage qu'il m'a causé. Voilà, ben, je te bouscule, comme ça tu comprends que c'est très désagréable et tu ne recommences pas. Il y a un désir de communion derrière, mais nous voyons que c'est un désir qui, par ce moyen, va difficilement s'accomplir. Et au contraire, on risque de se retrouver submergé par l'amertume ou la rage. Et du coup, on court le risque que là où il y avait un bourreau, à la fin, il y en a deux. Parce que les deux ont usé des mêmes armes. Et ça, c'est d'ailleurs l'un des pièges du tentateur. Le tentateur est tout à fait d'accord de laisser l'un de ses pions, l'un de ses bourreaux, être anéanti s'il est anéanti par un nouveau bourreau. Ça ne lui pose aucun problème. Et donc il y a à comprendre cela, le Christ nous fait sortir de la logique où l'on voudrait répondre au mal par le mal. Et nous pouvons voir comment d'ailleurs dans les relations internationales, c'est parfois ce principe de la loi du plus fort qui nous semble c'est vraiment le plus efficace, il faut y aller à fond. Et on oublie en fait que qui combat le mal par le mal le verra repoussé. Il revient sous une autre forme, mais on a juste semé la même semence. On a coupé, mais semé la même semence. Le Christ nous invite à répondre au mal par d'autres armes, les siennes. Les armes du bien et les armes de la bénédiction. Ça, c'est une chose qui peut nous sembler étonnante, parce que justement, celui qui nous en veut, ce qui me vient à l'esprit, c'est une malédiction plus qu'une bénédiction. Sauf qu'une malédiction, ça n'a jamais transformé un cœur. Ce qui transforme un cœur, c'est une bénédiction. Et de fait, ça peut nous arriver de dire, justement, lorsqu'on est face à quelqu'un qui nous cause du tort, que le Seigneur te bénisse parce que tu en as vraiment besoin avec tout le mal que tu fais. N'hésitez pas à avoir cette prière à la bouche et au cœur. Mais de saisir que ce n'est pas en semant un mal supplémentaire que nous allons pouvoir toucher un cœur. C'est la bénédiction qui peut changer un cœur. Mais là, vous allez me dire, mais mon père, quand vous dites ça, vous êtes en train de dire on va faire du bien parce qu'on espère quelque chose en retour. Là, vous espérez la conversion du cœur. Mais est-ce que c'est de l'amour quand on espère en retour? Il me semble dans le texte, il nous dit justement donner sans espérer en retour. Alors là, en fait, Il y a une distinction qu'il faut faire, parce qu'on est face à un problème de traduction. Et bon, je ne vais pas faire un cours de grec là-dessus, mais la nuance que l'on veut apporter, c'est que quand on parle de gratuité de l'amour, c'est que l'amour n'exige pas un retour pour se donner, pour se vivre. Il n'exige pas un retour. Il n'en fait pas une condition sine qua non. C'est pas « je vais t'aimer seulement et seulement si tu m'aimes en retour, j'obtiens quelque chose en retour ». Non, l'amour, effectivement gratuit parce qu'il n'exige pas en retour, en revanche, l'amour espère un retour. L'amour espère en retour. Et ce serait une aberration que de ne pas faire cette distinction. Et assez régulièrement, il y a des gens qui sont très désorientés par ça, parce qu'ils entendent cette expression de la gratuité de l'amour, et donc on a l'impression de se dire, si je veux aimer vraiment, il faut que j'espère rien en retour. Non mais, c'est quoi la nature de l'amour? La nature de l'amour, c'est une communion, c'est une alliance. Une alliance, vous la faites à deux, pas tout seul. Donc c'est dans la nature même de l'amour d'espérer en retour, parce que sinon il n'existe pas, l'alliance n'existe pas. L'espérance du retour fait partie de l'amour, mais pas son exigence. Je n'exige pas le retour pour vouloir ton bien, mais je l'espère parce que ça fait partie de la nature de l'amour. L'amour est gratuit au sens où il veut le bien de l'autre, mais ne l'exige pas. Mais le bien véritable, c'est une communion, d'où ce retour où on espère effectivement un retour. Alors quand on a dit ça, pourtant, il y a une autre chose qui nous vient à l'esprit. Vous êtes toujours vivant? Oui, ça va, il y a quelques-uns qui ont bougé, c'est bien. Quand on dit ça, il y a une chose qui nous monte au cœur, c'est qu'on dit, mais il ne suffit pas que je le veuille pour le faire, quoi. Parfois je me dis, je vais essayer, mais je me rends compte, mais je n'y arrive pas. Et on dit, mais vous me donnez une consigne, Seigneur, tu me donnes une consigne, mais cette consigne, comment veux-tu que je la réalise? J'y arrive pas, je ne trouve pas en moi les ressources pour y arriver. Ben, il faut se poser la question, est-ce que c'est normal que je ne trouve pas les ressources en moi pour y arriver? Et quand on voit un peu plus loin dans l'Évangile, qu'on a entendu d'ailleurs aujourd'hui, ce que dit Jésus, « Alors votre récompense sera grande, vous serez quoi? Les fils du Très-Haut, c'est-à-dire les fils de Dieu. » Donc, alors vous serez divins parce que vous aimerez comme Dieu aime. Alors là, je comprends mieux pourquoi j'y arrive pas tout seul. Je suis appelé justement à produire quelque chose qui est de l'ordre de Dieu, oui, mais qui n'est pas naturel, donc c'est surnaturel. Donc il n'est pas étonnant que je ne trouve pas la ressource en moi. C'est pas comme, faire de l'haltérophilie où j'aurai des gros muscles. Je lève des poids, je vais faire durcir et grossir mes muscles. Ça c'est mécanique, ça dépend que de moi. Il faut que je reçoive une force et une grâce, et cette grâce c'est celle de l'Esprit-Saint. Devenir les fils du Très-Haut, c'est ce qui s'accomplit justement à partir du don du baptême où nous sommes unis à la vie de Jésus, où nous recevons son esprit d'amour pour pouvoir aimer comme lui. Ce n'est pas quelque chose qui est contre nature, mais c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est quelque chose que je peux demander, mais c'est quelque chose que je ne peux pas produire par moi-même. J'ai besoin que le Seigneur l'infuse en moi, j'ai besoin que le Seigneur le dépose en moi, le vivifie en moi. Et donc, Jésus est en train de manifester là quelque chose de très particulier dans la foi chrétienne et au cœur de la foi chrétienne. Le chrétien, il est un peu dans une tension de « tu es appelé à une vie qui est la vie même de Dieu ». Et donc, d'une certaine manière, il est en train de nous dire « vous désirez haut, vous désirez très haut, et vous avez raison parce que vous avez été fait pour ça. Vous avez été fait pour pas moins que la vie de Dieu, et en même temps, cette vie de Dieu en vous, elle passe par un don que vous ne pouvez pas produire vous-même, mais que vous pouvez accueillir et recevoir, le don de mon esprit. » Alors ne soyons pas, j'allais dire, inquiets de nous dire « mais j'y arrive pas par moi-même et j'ai envie de faire tout le contraire. » Et en même temps, ne soyons pas désespérés en nous disant « parce que je ne peux pas le produire par moi-même, c'est impossible », mais que j'entre plutôt dans cette réaction de dire « Seigneur, fais-moi le don qui rend possible ma vocation ». Seigneur, fais-moi le don de ton esprit qui rend possible ma vocation d'être fils du Père jusqu'à aimer mes ennemis. Parce que à toi, Seigneur, tout est possible. Et même et en particulier d'infuser ton Esprit Saint dans ma nature pour qu'elle aime de façon surnaturelle. Et nous avons droit à cette prière. Vous voyez, comme le poisson, d'une certaine manière, a droit à l'eau pour vivre. Il a été fait pour ça. Dites à un poisson, vis hors de l'eau. Non, il n'a pas été fait pour ça. C'est scandaleux de lui demander ça. Vis hors de l'eau. Eh bien, de la même façon, il est scandaleux de demander aux chrétiens de vivre hors de l'eau de la grâce de l'Esprit-Saint. Donc, nous pouvons, nous devons, et nous avons le droit de demander, Seigneur, fais-nous baigner abondamment dans la grâce de l'Esprit-Saint pour que nous puissions accomplir notre vocation. Je ne renoncerai pas à la hauteur de ma vocation parce que je ne peux pas produire l'Esprit-Saint, mais je le demanderai sans cesse, encore et encore, parce que toi, Seigneur, tu peux me le donner. Et je t'ouvrirai ma liberté tous les jours de ma vie, et même plusieurs fois par jour s'il le faut, pour que l'eau de la grâce de l'Esprit-Saint me permettent de vivre cette vocation surnaturelle à l'amour jusqu'à aimer mes ennemis pour être vraiment fils du Très-Haut. Frères et sœurs, en ce dimanche, que le Seigneur nous comble de son Esprit Saint, que notre cœur ne désespère pas de vivre et d'aimer à cette hauteur, mais que nous ayons à cœur de demander chaque jour cette grâce de l'Esprit-Saint, de lui demander là où, humainement, notre vocation semble impossible, pour que surnaturellement, son Esprit fasse de nous les fils du Très-Haut qui aiment comme lui aime. Seigneur, envoie ton Esprit-Saint. Seigneur, envoie ton Esprit-Saint dans nos cœurs. Amen.